Vous disiez tout à l'heure donc, qu'il y a une tradition qui n'est pas très connue ici.
Elle est connue des gens, des initiés, mais les touristes, tout ça, les gens qui viennent pour la première fois, ils ne savent pas. Quand ils sont devant la statue de Sainte-Anne, qui est ici dans un oratoire, ils ne savent pas qu'il y a un passage sous la statue. C'est comme un passage secret, il n'y a aucune information. Il faut connaître qu'on passe dessous. Et la tradition veut qu'on touche le bas de la statue de Sainte-Anne pour faire un vœu. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune information, donc si on ne le sait pas, on ne passe pas dessous.
Nous sommes à Sainte-Anne-la-Palue avec vous, Marcel Kerbourg, Sainte-Anne-la-Palue, qui fait partie de Plonévé-Porzay. On est juste à côté de Châteaulin.
Oui, mais Sainte-Anne-la-Palue a une notoriété plus forte que la commune de Plonévé-Porzay.
En raison du pardon, notamment, qui a lieu le dernier dimanche. Tenez, on va passer sous la statue.
Oui.
Dernier dimanche d'août, le fameux pardon de Sainte-Anne-la-Palue.
Oui, un des plus grands pardons de Bretagne. Et voilà, on passe sous la statue, et hop.
Et on la touche.
Et oui, c'est comme toucher. Voilà. C'est une statue en granit qui pèse 350 kilos. Elle est sortie de la chapelle que trois fois. Hein. C'est assez rare qu'on la sorte. D'abord, elle est lourde, et puis il faut la sortir à un moment qui correspond à un événement de l'histoire de Sainte-Anne.
Et c'était quoi ces trois fois, alors, ces trois événements ?
Juste avant le début de la guerre, 1913, il y a eu 98 et 2013. Il faudrait que je reprenne le livre.
Alors justement, le livre, vous l'avez dans votre sac.
Oui.
Sainte-Anne-la-Palue, passionnément. On va se baser sur vos souvenirs, sur les cartes postales aussi qu'on vous a adressées pour l'écrire, pour parler de Sainte-Anne-la-Palue dans cette balade sur RCF. Marcel Kerbourg, un livre qui mérite déjà un tome 2.
Oui, oui. Au départ, j'ai écrit un premier livre qui était un livre sur mes souvenirs de vacances à Sainte-Anne-la-Palue. J'avais la chance d'avoir une tente qui avait une pièce à côté d'un hôtel et on vivait à plusieurs là-dedans, trois ou quatre. J'avais une relation affective avec cette tente qui venait de Paris, là, mais qui était originaire d'ici. Donc je passais mes étés ici à Sainte-Anne-la-Palue. Et j'ai fait un livre sur mes souvenirs de vacances. Et un jour, quelqu'un de Plonévé-Porzay, qui fait partie de l'association Culture et Patrimoine de la région, me dit « Mais c'est pas possible que vous gardiez ce livre-là à titre familial. Il faut que ça soit partagé pour le grand public. » Ah bon, je dis, mais moi, j'avais pas prévu de faire ça. Alors il me dit « Si, 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 mais on va réunir les anciens qui racontent les histoires et tout ça. » Donc le livre, il n'était pas prévu au départ que je fasse un livre. Mais en faisant mon livre familial, les gens m'ont dit « Mais vous savez qu'il n'y a rien eu d'écrit depuis longtemps sur le pardon de Sainte-Anne-la-Palue et ses environnements. » Il y a eu des gens du clergé qui ont écrit des livres il y a 60, 70 ans, mais depuis, personne n'a écrit. Mais moi, je ne me rendais pas compte de ça, parce que moi, c'était des souvenirs d'enfance qui m'intéressaient. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches, et puis là, je me suis rendu compte que en fait, Sainte-Anne-la-Palue, c'est un monument dans l'esprit des gens. C'est énorme.
Alors, on va en reparler, Marcel Kerbourg. On va voir s'il pleut un petit peu moins pour aller à l'extérieur, quitte à revenir dans cette chapelle, qu'on peut aussi présenter peut-être, ainsi que l'environnement, parce qu'on est à côté de la plage.
Oui, on est derrière la dune, parce que cette chapelle-ci, c'est la troisième chapelle dans l'histoire. Il y a eu une première chapelle qui a été détruite, une deuxième qui a été détruite. Et la troisième a été construite ici, à l'abri de la dune. En fait, on est derrière la dune et à l'abri.
Elle est immense, cette chapelle.
Oui. Et en plus, elle a été faite par un architecte célèbre, qui est Le Bigot, qui est l'architecte qui a fait les flèches de la cathédrale à Quimper et tout ça, le château de Kériolet. C'est un architecte qui était réputé pour la finesse de son architecture. Et c'est vrai qu'elle est belle. Et ici, on a un petit angelot, là, en haut, dans le coin, qui tient un écusson dans la main. Et sur l'écusson, il y a la date de la construction 1864. De la construction de la chapelle, ici. On le voit là-haut. On devine les chiffres sur ce petit angelot qui tient. Quand on regarde les cartes postales anciennes, les photos anciennes du siècle, pas du dernier, mais d'avant, c'est-à-dire dans les années 1890, les premières photos, on voit la foule qui est ici. Et il s'est passé des choses ici, quoi. Personne ne nous a parlé de miracle.
On va retourner à l'intérieur parce que ça pleut à nouveau.
Et on ne nous a pas parlé de miracle. Mais il y a la chapelle. Mais en face de la chapelle, juste ici dans le creux, il y a la fontaine qu'on appelait la fontaine miraculeuse. Donc de tradition, les gens venaient au pardon de Saint-Anne de la Palue, mais venaient surtout à la fontaine. Et il y a plein de cartes postales qui existent sur cette fontaine. Donc il y a fait un chapitre spécial sur la fontaine. Ça, c'est grâce aussi avec des fabricants de cartes postales de l'époque, Le Douaré à Châteaulin et tout ça. Ces gens-là, quand ils faisaient des reportages photos, faisaient une dizaine de photos. Ils en gardaient une pour faire la carte postale, mais il en est resté 9 qui étaient dans les cartons. Et j'ai eu la chance, grâce à Jacques Le Douaré, un des fils, de pouvoir fouiller dans la photothèque et de retrouver des photos inédites que personne n'avait vues. Donc ça, c'est intéressant pour les gens qui connaissent Sainte-Anne, parce qu'ils connaissent un certain nombre de cartes postales, mais ils ne connaissent pas toutes les photos. Donc on a eu la chance d'avoir des photos que personne n'avait jamais vues, des inédits. Ça, c'est les anciens de Clonévé-Porzay, de Sainte-Anne, qui connaissaient le pardon d'Édouard Nenet, ce serait, ils me disent, ils sont contents du livre parce qu'ils découvrent des choses inédites qu'ils ne connaissaient pas.
Marcel Carbourg, cette chapelle de Saint-Anne-de-la-Palue, alors à Plonévé-Porzay, à côté de Châteaulin, on continue à la décrire, aussi le passé. Vous pouvez nous dire ce qu'on peut voir, en quoi elle est intéressante à visiter?
Ben, d'abord, elle est en super état, hein, parce qu'on revient, regardez-moi les plafonds bleus et tout ça, comment que c'est beau, hein. Après, il y a des rétables. On a décrit dans le tome 1 tous les vitraux. Et maintenant, on va s'intéresser dans le tome 2 au statuaire. On va mettre toutes les statues qui sont ici sur les murs. Après, on a toutes les histoires des bannières de Sainte-Anne-de-la-Palue. Celle-ci qui est ici a été faite en 1913. Hein. C'est une des plus anciennes. Et elles sont magnifiques.
Hein. Voilà, qu'on trouve donc dans la chapelle.
Oui, qui sont dans la chapelle. Et il y a celle-ci. Et puis la plus nouvelle, c'est celle-ci là-bas. Celle-ci est plus récente, elle a une trentaine d'années, mais elles sont toutes magnifiques. Quoi. Et ça a été fait par le mineur à Pont-l'Abbé. Et toutes ces bannières-là, au départ, les bannières étaient assez tristes. Elles n'avaient pas beaucoup de couleurs, mais après, on a commencé à mettre de la couleur dans les bannières. Donc ces bannières-là, elles sont très lumineuses dès qu'elles sortent. On le voit bien qu'elles sont, elles sont belles. Elles sont bien sûr en doublé comme ça. Et à l'intérieur, il y a, je ne sais pas où les cacher ici, il y a ce qu'ils appellent un bolduc, qui est un document à l'intérieur. Ah, il est là. Allez, c'est le certificat. Ah non, celle-ci, c'est 1989, c'est la dernière, celle-ci. C'est le certificat d'authenticité de la bannière qui est cachée à l'intérieur de la bannière. Moi, j'ai rencontré le mineur, les successeurs de le mineur, qui m'ont expliqué un peu toutes ces histoires-là de la bannière.
Alors qu'est-ce que vous avez vécu, vous, personnellement, Marcel Carbourg, ici à Sainte-Anne-de-la-Palue, quand on parle du pardon, donc pardon très important avec...
Pardon, c'est la foule.
La foule, alors, ouais, la jusqu'à foule. 100 000 personnes.
Ouais, il y a eu des années comme ça.
Le dernier dimanche du mois d'août, on le rappelle.
Oui, dernier dimanche du mois d'août, mais c'était énorme, la foule qu'il y avait. Alors ça durait plusieurs jours, hein. Donc les gens, soit ils venaient en bateau, les gens de Douarnenez, tout ça, de la baie, ils venaient en bateau. Beaucoup venaient à pied.
De Plougastel, moi je voyais dans votre livre, à pied de Plougastel.
En deux jours.
En deux jours.
Ouais,
en deux jours. On s'arrêtait dans une ferme pour dormir.
Oui, il y avait 80 km. Et ici, tous les agriculteurs du coin laissaient de la paille partout. Les gens dormaient dans les granges, en fait, pour assister le lendemain, parce que ça durait quand même deux... La plupart du temps, ça durait deux jours, mais il y avait encore le lundi, le mardi...
Et pourquoi tant de ferveur à l'époque, alors? Enfin, quand je dis à l'époque, déjà, on va resituer, peut-être. Il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui au pardon de Sainte-Anne-la-Palue, mais on y vient toujours.
Oui, on y vient toujours, parce que je pense que Sainte-Anne, c'est la patronne des Bretons, donc c'est resté. Mais des chapelles de Sainte-Anne, il y en a beaucoup. Hein. J'ai répertorié dans le livre toutes les chapelles de Sainte-Anne dans le Finistère, c'est énorme, il y a des chapelles de Sainte-Anne. Mais Sainte-Anne n'a pas lu, elle a un avantage par rapport aux autres, c'est qu'elle est construite sur un terrain nu, il n'y a rien autour. Hein. Et ça lui donne sa valeur, parce qu'il n'y a pas de maison, il n'y a rien, on est en pleine nature et tout ça. On monte sur la montagne, on bénit la mer d'en haut et tout ça, donc on fait tout le tour. On voit bien sur les vieilles photos la foule qu'il y a, mais c'est énorme, énorme. Et puis après, à côté, ben, il y avait la fête foraine. C'était la seule fête foraine de Bretagne qui avait lieu dans un champ. Les autres, c'est sur des places publiques. Là, c'était dans des champs. Donc, dès qu'il pleuvait et tout ça, les camions étaient embourbés. Les agriculteurs arrivaient avec les tracteurs pour sortir les camions et tout ça. Ils mettaient des plaques en métal sous les autotampons. Et les manèges, l'après-midi, ils attendaient le feu vert du clergé pour pouvoir démarrer. Il n'y avait pas droit de mettre la fête foraine en même temps que la messe ou la procession. Donc, quand tout ça c'était fini, il y avait quelqu'un qui arrivait, qui donnait un signe aux forains, et là, les jeunes étaient déjà tous assis dans les autotampons, le ticket prêt, le jeton prêt à mettre dans la fente, et boum, le gars donnait le feu vert, et là, les lumières s'allumaient, les musiques se mettaient en route, et puis on s'était parti pour la fête. Et tout le monde allait, bien sûr, à la fête foraine. Il y avait deux hôtels, les Kefelec et puis les Enaf, mais l'hôtel magique ici de Sainte-Anne-la-Palud, c'est l'hôtel de la plage, celui qui a la grande tradition. Augustine Lelgouache, qui était une femme de caractère, a marqué la vie de Sainte-Anne-la-Palud, c'est sûr. Bon, puis après, il y a eu tous les gens célèbres qui venaient et qui continuent à venir.
Qui sont ces gens célèbres alors?
Ben, le plus célèbre, c'était Jean Gabin. Mais moi, quand j'étais petit, je me rappelle avoir vu Jean Gabin qui se promenait. Puis après, bon, il y a quelques noms qui sont sortis parce que la presse en a parlé. Et puis après, il y a tous les noms qui sont cachés parce que les gens qui viennent ici veulent avoir une discrétion. Donc c'est vrai que les noms ne sont pas toujours dévoilés. Mais c'est vrai que si on va à l'hôtel, on peut tomber sur des tas de gens connus. Et le Livre d'Or, bien sûr, où on a repris, nous, dans le livre, les peintures de Mathurin Méheux, qui venait là presque tous les ans, qui a fait des super tableaux sur le pardon de Sainte-Anne. Yvonne Jean Affen, avec qui je suis rentré en contact avec les héritiers qui nous ont donné les autorisations de publication pour les tableaux. Il y en a eu des peintres, hein. Les peintres qui ont peint Sainte-Anne, mais il y en a eu des centaines. Et tous les gens ici, ils ont tous un tableau à la maison, c'est marrant, de Sainte-Anne-la-Palud, avec un peintre des fois pas connu. Donc je suis en train de répertorier ça pour le tome 2, les tableaux de famille qui sont dans les maisons ici de la région.
Sainte-Anne-la-Palud, passionnément, est-ce que le tome 2 portera le même nom?
Non, ça sera intensément qu'on a mis pour changer le mot, mais le sous-titre, ça sera « Les anciens se souviennent ». On va avoir des témoignages d'anciens qu'on a commencé à avoir. On n'a pas pu tout mettre dans le tome 1, on n'y avait pas cette page, mais on va le mettre dans le tome 2. Et je pense que le tome 2 aura autant d'intérêt que le tome 1.
Vous lancez un appel aussi pour avoir des cartes postales, des souvenirs?
Les cartes postales, ça va. Ça, on a. C'est plutôt des photos familiales qui n'ont pas été éditées. Ça, c'est plus intéressant. En général, les gens, ils ont fait des photos, beaucoup, de la procession. Là, il y a des milliers de photos sur la procession. Où on n'a pas beaucoup de photos, c'est les autres endroits, quoi, autour de la fontaine, les pique-niques sur la plage, la fête foraine, sur les manèges. On a moins de photos de ça. Les gens ne faisaient pas des photos de ça. Donc ça, on est un petit peu plus limité. Mais on est preneur de tout, parce que tout ce qui intéresse Sainte-Anne, on voit bien que ça intéresse tout le monde. Le tome 1 est déjà épuisé. On avait fait 800 exemplaires, tout est parti. On a refait 450, là, pour passer l'été, parce que l'été, les gens vont venir ici, ils vont, s'ils apprennent qu'il y a un bouquin, ils vont
vouloir. On le trouve où, alors, ce livre, Marcel Cardin?
Ben, on ne trouve pas dans beaucoup d'endroits, en fait. On trouve surtout à Plonévé-Porzé. Puis après, on le retrouve à Douarnenez, à la Maison de la Presse. On le retrouve aussi à Châteaulin, Quimper chez Ravi. Mais on a 4-5 points de vente, c'est tout, quoi. C'est un peu limité.
À distance, peut-être?
Et à distance, il y a un site qui s'appelle tout attaché et en minuscule sainteannelapalud.fr. Et là, on peut l'acheter et le commander pour le recevoir si les gens habitent loin d'ici.
Alors rendez-vous autrement le dernier dimanche d'août pour le pardon, et autrement pendant l'été on peut visiter la chapelle et le site de Sainte-Anne-la-Palud à Plonévé-Porzé quand on le souhaite.
Ah oui, elle est ouverte tout, et surtout pas oublier de passer sous la statue de Sainte-Anne.
Et de toucher cette fameuse statue. Alors Marcel, on arrive à la fontaine. Toujours sur RCF avec vous, et vous me disiez qu'elle est miraculeuse.
La tradition, c'était ici qu'elle se passait. On se mouillait les pieds et tout ça, on se déchaussait et on mouillait les pieds ici, près de la fontaine. Et ici, il y avait la statue de Sainte-Anne au-dessus. Il y avait un petit capotage dessus qui a été enlevé là depuis. Alors on met eau non potable, mais en fait, je ne suis pas sûr qu'elle soit si non potable que ça, parce qu'elle est très belle. Et cette fontaine vient de la colline qui passe dessous la chapelle. Et les anciens disent qu'elle passe juste dessous la statue de Sainte-Anne qu'on a vue tout à l'heure. Elle vient de là-haut et elle arrive ici. Voilà. Et après, il y avait un deuxième déversoir plus bas, qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui servait pour les animaux, parce que les gens, ils venaient ici, ils avaient des chevaux, il y avait des chevaux partout, des centaines de chevaux. Donc les gens venaient abreuver les animaux sur la deuxième. Mais celle-ci, c'était sacré. Et quand on regarde sur le livre, on voit les centaines de personnes qu'il y a ici, tous costumés en plus. C'est magique ici. C'est dommage de venir à Sainte-Anne-la-Palue et pas faire le petit crochet. Il n'y a pas beaucoup de signalétique qui dit qu'il faut venir ici.
Il y a juste le panneau fontaine à 50 mètres.
Ouais, mais ça raconte pas assez l'histoire. Il devrait avoir une photo qui montre, il y a 100 ans, les milliers de personnes qu'il y avait ici, les chevaux qui passent devant, tout ça. J'ai trouvé une photo extraordinaire au MUSEM, le musée de
Marseille.
Marseille, ouais. J'ai trouvé une photo de la fontaine de Sainte-Anne-la-Palue qu'on a achetée pour mettre dans le livre, parce que ces photos-là sont payantes pour avoir certains droits. Voilà.
Et on va remonter jusqu'à la chapelle,
ouais,
pour poursuivre cet entretien, cette balade avec vous.
Les Allemands avaient décapité, on voit encore la statue ici de Sainte-Anne. On voit qu'il y a un joint blanc sous sa tête, vous voyez pas?
Ah oui.
Hein? Parce que les Allemands, quand ils ont quitté en août 44 ici, ils avaient décapité la statue. Et elle a été recollée, bien sûr, après. Mais on voit encore les traces. Et ici, au cours des années, on a vu que les arbres, il y a des photos où il n'y a aucun arbre, après il y a des arbres, après il n'y a plus d'arbres, ils ont été coupés, la tempête, tout ça. Et moi, mon endroit, c'était là, près du porche, parce que ma tante qui m'hébergeait ici, à l'hôtel de la Palue, ici, ma tante était asthmatique, elle n'avait pas le droit d'aller à la plage. Les médecins lui disaient que non. Donc elle tricotait sur un transat en toile là. Et puis moi, ben, je venais là, passer l'après-midi à côté d'elle. Puis on discutait et tout ça. Après, je m'étais mis à faire de la peinture et j'avais peint la chapelle de Sainte-Anne. Mais les touristes, ils arrivaient, ils voulaient m'acheter mon tableau. Donc j'en ai fait 4 ou 5 qui sont partis à Paris et ailleurs. J'ai essayé d'en récupérer, j'ai pas encore réussi. Mais il doit y avoir 4-5 tableaux qui existent. C'était sur des petites toiles cartonnées qui faisaient un format un peu plus grand que entre A4 et A3 de la chapelle de Sainte-Anne-la-Palue. Donc j'ai un affectif très fort avec le lieu, son histoire, mes souvenirs d'enfance. C'est un endroit magique.
Et votre foi est intacte, on imagine, Marcel Carbon?
Oui, évidemment, parce que c'est pas n'importe où ici. Et Sainte-Anne-la-Palue, c'est un sanctuaire, c'est un endroit. Je me suis rendu compte, plus je travaillais sur le livre, plus je rencontrais des gens, et plus je me disais, mais c'est un monument. Sainte-Anne-la-Palue, c'est un monument par rapport à d'autres. Ici, le calvaire, il a été changé en 52. Parce que moi, j'ai des photos quand je suis petit avec ma grand-mère sur le calvaire, et le calvaire a été tourné à l'ouest. Et puis après, ils ont récupéré ça à Saint-Jean-Trolimont, cette porte-là. Donc du coup, quand ils ont habillé cette porte-là, ils se sont dit, quand on rentre par là, il faut que le calvaire soit en face.
Donc, oui, le porche n'est pas d'origine alors?
Non. Enfin, il a une centaine d'années, quoi. Non, il y a des choses qui ont été transformées après. Hein. Non, mais tu sais que les gens, ils viennent ici, ils ne savent pas qu'on passe sous la statue. Ils ne savent pas, parce qu'il n'y a rien. Toi, tu ne sais pas non plus? Ah ben, tu vois. Hein, viens, je vais te montrer.